Je venais donc vous parler d'un ouvrage collectif. C'est un livre qui est issu d'un appel d'offres, donc du plan urbanisme, construction, architecture, PUCA, intitulé « Territoire urbain et sûreté ». Et c'est une instance donc ministérielle qui avait souhaité en 2007 la contribution d'équipes de recherche pour mettre en lumière les effets des préoccupations sécuritaires sur la conception, la gestion et l'usage des espaces urbains. Donc on est dans le cadre d'une commande ministérielle qui était très claire puisqu'il s'agissait de livrer une réflexion critique sur les liens entre évolution des conceptions de la sécurité d'une part et de l'espace urbain d'autre part. Et puis en plus de ça, la commande ministérielle attachait beaucoup d'importance à l'espace, à sa conception et à l'utilisation et la maintenance de l'espace, tout comme à son évolution. Donc c'était vraiment une demande très, très ciblée et très claire. C'est dans ce contexte que la réponse a été proposée par une équipe donc, de chercheurs coordonnée par un géographe, Jacques Combi. Cette équipe est assez originale, puisqu'on est dans un cadre d'une équipe pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales, avec un terrain d'étude qui est l'agglomération lyonnaise. Et cette agglomération lyonnaise est un territoire qui est précurseur en matière de prévention des risques. Donc on a intégré l'épaisseur historique, on a envisagé la longue durée aussi, sur plusieurs siècles, puisque on commence au 19e et on termine au 21e siècle. Et puis surtout, c'est un ouvrage qui favorise la multiplicité des approches. On est aussi sur un ouvrage qui prend en considération toutes les échelles et tous les lieux de l'agglomération lyonnaise, puisqu'on passe par des immeubles en allant dans les quartiers. On passera aussi par des espaces verts et on va aussi s'intéresser au centre de la ville, mais aussi aux banlieues de cette ville. Alors bien évidemment, la question de la sécurité en lien avec l'urbanisme ne peut pas se passer d'une approche historique. La première partie est donc consacrée aux études historiques du début du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le premier rapport vient d'un historien urbaniste qui a une formation d'architecte, il faut quand même le souligner. Bernard Gauthier a donc abordé la question de la sécurité à un moment très précis de l'évolution de l'aménagement de l'espace lyonnais. Il a donc étudié la question de la sécurité lorsque la partie centrale de la ville a été recomposée. Et c'est donc à travers l'étude de l'actuelle rue de la République, qui est aujourd'hui une rue piétonne, donc une rue commerçante, puis de la Guillotière, qui est un quartier de la rive gauche du Rhône, qu'il a donc travaillé la question entre 1820 et 1900. Il a abordé le sujet avec deux questions fondamentales. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les aménagements urbains et le développement des castes sociales défavorisées? Et deuxième question, qu'en est-il de l'écart qui existe entre un discours public et des motivations réelles? Alors, Bernard Gauthier a travaillé sur la rénovation urbaine du centre de Lyon au 19e, et il est parti d'un constat, c'est que le rapport de la société à son espace avait été très peu étudié jusque-là. Ainsi, l'aménagement de la rue de la République est conçu pour permettre à l'armée d'accéder aux quartiers susceptibles de se soulever, donc des quartiers qui sont supposés dangereux. Et ainsi, ça va permettre une meilleure circulation avec un apport d'air, de lumière, un aspect esthétique plus intéressant. Un aspect esthétique qui, à l'époque, il faut le souligner, exprime l'ordre politique et économique. Et bien évidemment, la première remarque qui saute aux yeux, c'est que il y a un lien très important entre les insurrections ouvrières de 1831 à 1834 à Lyon et le percement donc de la rue impériale. Donc la question de la sûreté urbaine s'impose ici comme au cœur des préoccupations des politiques, mais aussi des techniciens qui sont chargés donc d'aménager cet espace urbain. Alors on a trois niveaux de sécurité. Une petite précision, le mot est employé ici comme un synonyme de sûreté, mais attention dans son sens étendu. Donc trois niveaux de sécurité, sûreté, sont présents dans l'opération de la rue de la République. Le premier niveau, c'est l'inquiétude relative au contexte géopolitique lyonnais, donc la peur d'avoir à nouveau des émeutes ouvrières et urbaines. Deuxième niveau de sécurité, sûreté, c'est l'immédiate question ouvrière dans sa totalité. Et puis la mise en œuvre du projet d'aménagement pour le troisième niveau de sécurité. Une petite précision qui est importante, c'est que le développement de l'agglomération de Lyon est très, très rapide. Pendant les décennies de 1820 à 1850, c'est une agglomération qui va énormément grossir. On construit comme jamais, la ville s'étend très rapidement et l'économie aussi s'enrichit. Alors, on a un centre-ville au 19e qui est habité par des populations pauvres et l'urbanisation périphérique concerne des industries et des populations principalement ouvrières et de faible niveau social. Ce qui va inquiéter la municipalité, c'est qu'on voit partir une part de plus en plus importante de la bourgeoisie. Donc il y a une vraie inquiétude de la municipalité pour essayer d'éviter cette hémorragie. Et c'est risqué parce que ça voudrait dire que le centre-ville, cette presqu'île, donc entre Rhône et Saône, ne sera habité que par une population ouvrière, jugée par le pouvoir municipal comme dangereuse. Puis il y a une autre question qui est aussi importante, c'est que Lyon est décrite par tous les voyageurs de l'époque, tous les gens qui passent à Lyon, comme une ville crasseuse, dangereuse et très laide. Charles Dickens a fait une description de Lyon assez terrible. Donc dès lors, la question de l'aménagement du centre de Lyon va occuper l'esprit des décideurs, tant on craint aussi la répétition donc, de ces fameuses révoltes de Canuts, donc 1831-1834. Les Canuts, ce sont des ouvriers de la soierie qui ont donné leur surnom à l'insurrection. Alors, à ce monde ouvrier considéré comme dangereux, il faut ajouter d'autres considérations qui n'ont probablement rien de très spécifique au cas lyonnais, mais on est dans la belle époque où on pense hygiène, voilà, bon, la période de l'hygiénisme, et c'est d'améliorer les conditions de vie des villes. C'est vrai que la presqu'île lyonnaise à cette époque est une presqu'île qui est surpeuplée, des habitations qui sont très nombreuses, où l'air ne circule pas. Donc effectivement, on est aussi dans cette idée-là. On a des sources qui permettent de clarifier nettement quels sont les discours portés par les différents acteurs lors de la création de la rue de la République. Ce sont des documents qui sont parfaitement explicites et qui visent la mise en œuvre d'une politique d'aménagement qui permettra de rétablir l'ordre public. Mais attention, cette lecture, elle est plutôt confidentielle. On ne peut pas avoir cette impression avec uniquement les documents qui sont conservés. L'argumentation politique n'est clairement exposée que dans un cadre très étroit d'échange entre le plus haut niveau gouvernemental et la tête du pouvoir local. Dans la communication publique, les arguments sur lesquels on met l'accent sont donc l'hygiène, l'air, la lumière, la circulation et l'esthétique. L'argumentation publique n'évoque pas la question pourtant centrale de la sécurité publique. Et Bernard Gauthier l'explique comme ça. La raison en est certainement la crainte des réactions populaires possibles, envisageables. Cette crainte explique la très grande rapidité avec laquelle les opérations vont être menées, puisque les dossiers d'expropriation sont rondement menés, les évictions qui suivent à partir de l'été 1854... on a à peu près des expropriations qui vont se passer en trois phases. Ça va de l'été 54 à l'été 55. Et on va donc indemniser les locataires de ce centre-ville pour faciliter probablement le processus, pour essayer aussi d'accélérer les choses. Et les démolitions vont commencer en décembre de la même année. On aura au total 350 immeubles qui vont être abattus. Les derniers immeubles sont abattus vers le milieu de 1856. Alors, on avait, dans une étude qui a été faite bien avant, en 1853, on avait une indication du degré de la pauvreté de cet habitat, qui est donc donnée par une enquête menée fin 1853 à l'initiative du préfet Weiss, qui montre qu'un très grand nombre d'immeubles est insalubre. Ces immeubles sont habités par des ouvriers. Et très souvent, ce sont des garnis, ce qu'on appelle des garnis à l'époque, c'est-à-dire des habitations qui sont déjà meublées. Et cette enquête laisse penser que la description de Charles Dickens reposait bien donc sur une réalité. Les travaux sont rapides, puisqu'on a vu que les expropriations avaient été faites rapidement. Au début de l'année 1858, a lieu la réception des travaux de la rue par les ponts et chaussées. Alors, on peut évidemment évaluer la réussite de l'opération d'aménagement, au regard des objectifs qui avaient été fixés dans le projet. L'objectif sécuritaire est pleinement atteint. Il n'y a plus d'ouvriers dans la presqu'île, dans le secteur donc, qui a été reconstruit. La population nouvelle est essentiellement une population de haut niveau social. Qui plus est, la rue est devenue le centre des affaires de Lyon, avec de très nombreux sièges de banques, la bourse, des grands magasins, quelque chose de lumineux. Alors, la lumière est amplement dispensée dans l'espace public, mais les intérieurs des îlots sont encore densément bâtis. L'hygiène est présente, l'eau courante dans chaque immeuble, le tout à l'égout. Donc c'est vrai qu'on a une vraie réussite par rapport au projet initial. On a un espace aussi créé qui est apte à la circulation et à la déambulation. On se retrouve à peu près dans l'équivalent d'un grand boulevard parisien, avec un mobilier urbain moderne, un éclairage public qui est bien conçu, et un objectif esthétique qui est lui aussi atteint. Donc tout a bien fonctionné, la ville de Lyon est très contente. Le problème, c'est que la réalisation est tellement exemplaire qu'elle va donc susciter des tas de volonté donc de reproduire cette percée ailleurs. Et on va voir à Lyon défiler, non seulement pour visiter, mais aussi pour prendre conseil, les maires de Marseille, Toulouse, le préfet de la Somme, Amiens, le gouverneur général d'Algérie, Bayonne, Le Havre, puisqu'on est dans la région. Donc on a une vraie réussite. La rénovation urbaine au centre de la ville, le problème, c'est qu'elle va déplacer d'importantes populations, donc des populations qui sont des populations plutôt pauvres. Bernard Gauthier a chiffré ce déplacement de population à 300 000 personnes, ce qui est énorme pour le 19e siècle. Alors, la seule rue de la République a nécessité un déplacement de 12 000 personnes. Donc des gens qui sont délogés et qui vont donc chercher à se reloger ailleurs, de l'autre côté du Rhône, sur la rive gauche. Et puis des petites opérations d'aménagement dans le pourtour de la rue, c'est-à-dire la rue de l'Impératrice, qui est aujourd'hui la rue du Président Herriot, plus la rue de la Barre, on le verra pour la période de pour le passage sur la place Bellecour. En gros, 15 000 personnes supplémentaires, ce qui fait 15 000, 12 000, 15 000 pour la rue de la République. Et en tout, on a un total de 30 000 personnes. Donc ces 30 000 personnes qui sont indemnisées partent en rive gauche du Rhône, pour l'essentiel. Donc une population déplacée qui va trouver à se reloger dans un secteur qui est beaucoup plus pauvre et surtout qui va connaître d'autres problèmes, puisque là, on va avoir affaire à des inondations du Rhône. La forme architecturale du secteur qui est choisi par ces populations ouvrières, c'est donc des secteurs de baraques, entre guillemets, donc des maisons qui comportent un à deux étages, des constructions assez fragiles, assez légères, et évidemment des constructions qui sont évidemment problématiques par rapport à la grande inondation de 1856, puisqu'en 1856, le Rhône va déborder allègrement. Donc ça va vraiment constituer un très gros problème pour ces populations-là. On va donc être obligé d'exclure la construction en pisé, donc en terre, et l'arrivée de ces populations expulsées du centre, donc en quête de nouveaux logements, va venir grossir des besoins d'une population qui était déjà sur place sur la rive gauche du Rhône, et une population aussi qui a besoin de se reloger avec l'inondation de 1856. Donc on va avoir une multiplication des facteurs-là. Bien évidemment, on va avoir une reconstruction qui va être un petit peu différente. On va essayer de lutter contre les inondations du Rhône. Et puis, on est quand même là dans une perspective de rapidité, puisqu'il faut reloger 30 000 personnes et que c'est effectivement assez compliqué. Alors, après avoir exclu tous les sites de la presqu'île, la ville de Lyon va choisir un emplacement pour sa nouvelle préfecture. Et elle va justement décider de construire la nouvelle préfecture du Rhône sur la rive gauche du Rhône, ce qui va s'accompagner bien évidemment à nouveau d'un déplacement de population, donc des populations qui ont déjà été déplacées puisqu'ils venaient de la presqu'île, qui vont devoir à nouveau trouver donc un autre secteur pour se loger. Alors, qui dit mise en place construction d'une préfecture sur la rive gauche du Rhône, dit évidemment revalorisation du quartier, puisque les effets sociaux vont être très importants. La population ouvrière à bas revenus ne va plus pouvoir rester dans ce quartier. Et c'est pour Bernard Gauthier, évidemment, un problème, puisqu'on chasse cette population de la presqu'île, à nouveau, donc une trentaine d'années plus tard. Donc, pour Bernard Gauthier, l'examen de la percée de la rue de la République à Lyon, sous l'angle des questions de sécurité, a fait ressortir la sécurité-sûreté comme une préoccupation majeure, à savoir vider le centre-ville de ses ouvriers, donc à la suite des insurrections 1831-1834. Leur déplacement est accompagné, évidemment, sur la rive gauche, mais 30 ans plus tard, on a une nouvelle éviction qui est organisée, toujours tacitement, pour livrer l'espace où ils avaient trouvé, donc ces populations ouvrières avaient trouvé à se reloger. Évidemment, il va falloir qu'elles repartent à nouveau en quête d'autres secteurs. Et bien évidemment, ce secteur de la rive gauche du Rhône va avoir à nouveau un développement très bourgeois à l'identique de la presqu'île. Autre lieu dans l'agglomération lyonnaise, ce qu'on appelle donc la place Bellecour, qui est vraiment au centre de la presqu'île, entre Saône et Rhône. Ça, c'est un travail donc, que j'ai mené, c'est ma contribution à l'ouvrage. Pour cet ouvrage, j'ai interrogé la notion de sécurité-sûreté durant la deuxième moitié du XIXe siècle sur cette place. Alors cette place, il faut quand même que je vous la présente. La place Bellecour à Lyon, c'est un lieu symbolique, c'est une place symbolique, on peut même dire emblématique. Alors c'est une place qui est très chère au cœur des Lyonnais, c'est le symbole de la ville. C'est une place qui est assez gigantesque puisqu'elle fait 6 hectares, grosso modo 310 mètres sur 200 mètres. Une place qui est encadrée de façades monumentales. Bon, des façades qui sont assez belles, proportionnées, grandioses. Mais c'est quand même un espace vide qui tranche avec tout l'environnement très construit de la presqu'île. Alors l'histoire, un petit mot d'histoire de la place Bellecour. C'est une place qui est liée à l'identité lyonnaise. C'est une place qui a été achetée par la ville de Lyon en 1604, donc la volonté d'Henri IV que la ville achète cette place. C'est un lieu symbole qui est bon symbole de la royauté, mais c'est aussi le symbole de la répression, puisque Lyon n'est plus très célèbre. Lyon n'est plus va marquer évidemment cette place, puisqu'on va démolir les façades de la place Bellecour pour punir Lyon. Et comme toutes les places, c'est une place qui est un lieu d'échange, de rencontre et de rassemblement. C'est aussi un lieu de convergence spontanée. C'est aussi un lieu ludique, culturel, voilà. Mais ce qui est très intéressant à remarquer à Lyon, c'est que la place n'abrite aucun élément du pouvoir. On n'a pas d'hôtel de ville sur cette place. On n'a pas de préfecture, pas de palais de justice. Cette place Bellecour au 19e, dans la deuxième partie du 19e, elle a deux visages. C'est un lieu à la mode le jour, un lieu à la mode bien famé, et c'est un lieu mal famé par contre la nuit. Le jour, on est vraiment dans une place qui est très prisée de la bonne société. La bonne société vient s'y promener, se montrer, voir et être vue. Elle y déambule dans ses plus beaux habits. On peut même y écouter de la musique. On a des concerts qui sont donnés donc sur la place Bellecour. Les nurses des familles aisées viennent promener les enfants. Et le pourtour de la place Bellecour est très, très recherché pour toute la bourgeoisie. C'est une adresse très prestigieuse. Évidemment, le cadre de vie et l'aspect est très important. Donc le jour, c'est une place qui est très agréable à vivre. Mais par contre, la nuit, la place offre un tout autre visage. Il y a beaucoup de cafés, de restaurants dans les pourtours de la place. Et on a donc, le soir venu, des tapages nocturnes, des rixes. La place Bellecour, la nuit, c'est aussi un lieu de prostitution. C'est aussi le lieu favori des rencontres entre homosexuels. Jean-Jacques Rousseau raconte en 1731 son expérience sur la place Bellecour. Donc on a vraiment deux visages pour une même place, mais en réalité ces deux visages s'expliquent par la situation géographique de la place. Du côté nord-est de la place, vous avez les quartiers populaires, évidemment populaires avant la percée de la rue impériale, puis la rénovation du quartier Grolet, qui va aussi évidemment complètement changer les choses. Et d'un autre côté, vous avez de l'autre côté de la place un quartier aisé, bourgeois, qu'on appelle le quartier Bellecour-Aînais, où vit toute une bonne société. Et c'est la présence de la bonne société installée au pourtour de la place et sur l'autre rive, qui permet aussi à la place Bellecourt d'avoir ce côté très bien famé le jour. Mais en même temps, la population ouvrière vit à quelques enjambées de la place Bellecourt et de la Bonne Société. Il faut aussi signaler que si la nuit venue, la place Bellecourt devient si mal famée, c'est que l'on a beaucoup de lieux de divertissement dans les alentours. Alors, les lieux de divertissement à l'époque, ce sont des cafés-concerts, des théâtres. Et le soir venu, évidemment, tous ces lieux sont propices aux rencontres de tout genre. Et puis la place elle-même est un lieu de distraction. Alors seulement une fois que les beaux jours sont là, hein, puisqu'elle accueille des concerts en soirée. Et les promenades nocturnes sont donc très appréciées des Lyonnais quand il fait beau. Mais jusqu'à une certaine heure, parce qu'évidemment dans la deuxième partie de soirée, c'est une autre population qui va prendre possession de la place. Donc on a une place qui offre deux visages, à l'image des deux bâtiments, des deux seuls bâtiments que la municipalité a décidé de construire. En 1829, la ville de Lyon décide de construire un poste de police à l'est de la place et un café à l'ouest. Donc on a pu lire dans un journal local, je cite, « un corps de garde pour maintenir l'ordre et un café pour le troubler ». Alors, si la situation de la place et son environnement en font un espace partagé où cohabitent deux mondes, ils se mélangent quand même parfois. Et le périmètre de la place regorge de lieux où la bourgeoisie vient se divertir. Et c'est vrai qu'une certaine... Alors, il faut quand même faire, quand même minorer les choses, parce qu'on a quand même une bonne partie de la société lyonnaise, qu'on appelle les ultra-catholiques, qui ne veulent pas fréquenter les lieux de divertissement, qu'ils considèrent comme des lieux de perdition. Ces lieux de perdition pour eux sont des, je cite, tombeaux de la piété, et certains notables lyonnais boudent quand même ces lieux. Mais globalement, on a quand même une bonne partie de la société, la bonne société lyonnaise qui fréquente ces lieux de divertissement. Hormis les plaintes pour tapage nocturne, les archives ne nous montrent pas de problèmes particuliers. On a quelques petits conflits d'usage, donc tapage nocturne, et encore certains tapages nocturnes sont le fruit de limonadiers, je cite les archives, qui pour essayer d'avoir un peu moins de concurrence, comme ils se font concurrence entre eux, ils essaient aussi de s'attaquer mutuellement avec ces dépôts de plaintes pour tapage nocturne. Mais ce qui va être très intéressant à observer, ce que les archives montrent très bien, c'est qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, on assiste à une moralisation du lieu. Et cette moralisation du lieu, elle est à relier au changement opéré dans l'environnement. En clair, si vous préférez, la moralisation du lieu va être la conséquence de la percée de la rue impériale et de l'éviction des populations ouvrières de l'autre côté du Rhône. Alors, bien entendu, on a parlé donc de régénération du centre de Lyon. Le terme est utilisé de refonte ou de régénération du centre de Lyon. Et c'est vrai que l'emblème de cette régénération, c'est la percée de la rue impériale, au feu de la République, donc 1854. Et il est vrai que cette percée, elle a été voulue par des classes dirigeantes et aussi par le pouvoir politique pour des raisons qui sont sécuritaires, politiques, et économique, on l'a vu avec le travail de Bernard Gauthier. Mais quelles que soient les raisons avouées ou non d'ailleurs, la réalité est là, la place Bellecourt n'est plus ce lieu particulier, ce ne sera plus à partir de la rénovation et de la régénération du centre, ce ne sera plus un trait d'union entre des populations différentes, puisque les populations ouvrières ont été déplacées de l'autre côté du Rhône. Et ce sont ces grands travaux d'urbanisme du Second Empire qui modifient complètement le brassage de population sur cette place. Alors, les conséquences, donc, ne se font pas attendre. En 1856, le Café du Pavillon, qui était situé sur la place même et qui était très réputé pour la prostitution et le bruit, le tapage nocturne, ce café du pavillon, est remplacé par un café très chic. Toujours dans la continuité, en 1881, le casino, l'établissement qui s'appelait le casino, qui exhibait donc des chanteuses et des fantaisistes, comme on appelait ça à l'époque, va fermer et devient une salle élégante. Et puis en 1892, à la fin du 19e siècle, le théâtre Bellecour va carrément fermer ses portes. La place, finalement, en elle-même, a bénéficié de peu d'aménagements. Elle bouge peu durant cette seconde moitié du 19e. Exception faite de deux bâtiments, donc on l'a évoqué, construits en 1829. Et si on n'a pas pu faire bouger un peu plus cette place, en tout cas si elle n'a pas pu évoluer plus, c'est parce qu'il y a une ordonnance royale qui date de 1658 et qui interdit justement toute construction. Donc c'est déjà une exception faite à l'ordonnance royale d'avoir construit deux corps de bâtiments à l'est et à l'ouest. Donc si la place Bellecour a bénéficié de peu d'aménagements, elle a subi quand même les répercussions de la transformation du centre, donc cette fameuse rue impériale, qui a eu pour conséquence de modifier la cohabitation des populations diverses sur un même espace. On a donc évidemment évincé ces populations. Ça va donner à la place Bellecour, ça va renforcer sa centralité, ça lui redonne évidemment du prestige. Et les percées donc secondaires, la rue Impératrice, puis après la rue de la Barre, les percées secondaires vont faire que toutes les rues convergent vers la place, et on parle en fait pour cette place, enfin pour le changement de la place, d'effet induit de la régénération du centre. C'est-à-dire que la place en elle-même ne change pas, mais c'est ce qui s'est passé au niveau de la régénération du centre qui va évidemment avoir un impact important. Donc la modification entamée dans la seconde moitié du XIXe siècle s'est poursuivie jusqu'au XXe siècle, puisque les classes populaires qui ont été chassées du centre au XIXe siècle vont revenir. Alors bon, on l'a vu, hein, pour des raisons sécuritaires, politiques et économiques, mais ces classes populaires vont revenir au XXe siècle grâce à des aménagements qui vont être réalisés. Alors cette fois-ci, sur la place Bellecour, enfin sur façon de parler, pas vraiment sur la place Bellecour, je devrais même dire sous la place Bellecour, puisqu'on a creusé en 1966 un parc de stationnement. Et puis en 1978, on a l'arrivée du métro, donc là encore, sous la place. Le parking comme le métro vont permettre à une population moins aisée, qui vit soit au pourtour de la ville ou carrément dans les banlieues, de revenir facilement au centre-ville. Donc ces populations ouvrières, ou en tout cas peu aisées, vont faire un chemin, en tout cas il y a un flux retour. On assiste donc à un flux retour. Alors dernièrement, la place a été réaménagée, alors pas sur sa totalité, juste sur une partie. Ça a suscité d'énormes discussions, débats, notamment de la part des riverains de la place, qui luttent contre ce qu'ils appellent l'occupation, entre guillemets, de leur place. Ils parlent même d'une occupation en champ de foire. Pour la bourgeoisie lyonnaise qui habite au pourtour de la place, la mairie centrale a un peu tendance à trop utiliser la place pour des manifestations, soit culturelles, soit sportives. Et effectivement, il y a une vraie problématique sur cette question-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette problématique-là, elle est très ancienne, elle n'est pas du tout récente. Depuis plus d'un siècle, la place Bellecour a fait l'objet d'une lutte entre deux conceptions. On a d'un côté une conception de ville, c'est-à-dire que la place Bellecour est considérée comme la place fleuron de la ville, emblématique de la ville, donc une place qui appartiendrait à tous les Lyonnais. Et puis à l'opposé, vous avez une conception plutôt de quartier, un lieu de sociabilité qui serait réservé à la bonne société, qui réside soit sur le pourtour, soit aux alentours. Et là, on est vraiment dans un cadre assez intéressant parce qu'on peut souligner le débordement de l'espace privé sur l'espace public. Il y a une appropriation de l'espace public, une dénaturation. Et puis on peut même aussi souligner les enjeux de territoire. Donc deux conceptions politiques qui vont s'opposer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les plaintes actuelles des riverains contre l'utilisation en champ de foire de leur place fait référence justement aux politiques, mais que cette conception est vraiment ancienne, puisqu'on a déjà dans les archives une habitante de la place qui écrivait en 1907, je cite, Hériot, alors Hériot c'est le maire de l'époque, hein. Édouard Hériot entend ainsi mater le bourgeois. De fait, il n'y a plus moyen de respirer, ni d'ouvrir ses fenêtres. Donc on a déjà une bourgeoisie en 1907 qui se plaint que la ville de Lyon utilise la place comme un champ de foire et ne respecte pas l'espace qui doit normalement, d'après cette population, appartenir à la bonne société lyonnaise. Alors aujourd'hui, les remarques sont donc les mêmes, je l'ai dit, avec un aspect très particulier, très politique, puisqu'aujourd'hui, les riverains reprochent à la municipalité centrale, qui est PS, de punir le deuxième arrondissement, puisqu'on est en Presqu'île dans le deuxième arrondissement. Ce serait donc une volonté de la municipalité centrale de punir le deuxième arrondissement d'avoir voté à droite, et donc d'imposer au quartier, à ce quartier bourgeois, les manifestations diverses et variées. Alors, l'étude de la place Bellecour, qui est un trait d'union entre deux quartiers, enfin qui a été un trait d'union entre deux quartiers, est une approche assez particulière, en ce sens qu'elle s'intéresse à une région morale, pour reprendre, entre guillemets, hein, pour reprendre le terme de Pierre-Yves Saunier, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. La place Bellecour, elle échappe totalement à la notion de quartier et son étude montre qu'elle ne peut être rangée dans aucun tiroir ni étiquetée à la différence d'un quartier. C'est très particulier. Cet espace qui est emblématique s'impose comme le reflet de l'évolution que connaît la cité dans cette deuxième partie du 19e. Et c'est une place qui est vraiment un portrait de cette évolution. Et puis c'est aussi intéressant parce que ce travail a permis de montrer, s'il en était besoin, combien le projet urbain est une question à la fois politique et sociale. On ne peut pas envisager un projet urbain sans envisager l'aspect social et politique. Ce qui va nous amener à une troisième partie historique, avec la collaboration donc pour cet ouvrage d'une historienne qui s'appelle Anne-Sophie Clémenceau, qui a, elle, analysé l'attitude d'un grand propriétaire foncier lotisseur. Il s'agit des Hospices Civils de Lyon. Et donc, c'est intéressant de voir comment ce grand propriétaire foncier va se positionner vis-à-vis des questions de sécurité. Alors, elle a travaillé, elle, sur la période qui va de 1850 à 1914. Et ce grand propriétaire foncier, alors évidemment, les biens sont répartis dans l'ensemble de Lyon, mais les HCL, donc Hospice Civil de Lyon, l'abréviation, possèdent énormément de biens, d'immeubles et de territoires, de terres, sur la rive gauche de la Saône. Alors, après les percées haussmanniennes de la Presqu'île, que Bernard Gauthier a bien étudié, le choix va se porter d'aménager cette fois-ci la rive gauche du Rhône entre 1850 et 1914. Et on l'a vu que la municipalité lyonnaise avait choisi cette rive gauche du Rhône pour construire et installer sa nouvelle préfecture. Donc là, on est dans la constitution d'un morceau de ville sur un long terme, un assez long terme. Donc à partir d'une politique urbaine qui est assez complexe mais qui est évolutive, et puis surtout sur la mise en place d'un propriétaire foncier qui est aussi un propriétaire lotisseur. Parce que les Hospices Civils de Lyon possèdent à la fois le terrain et ils possèdent aussi les immeubles. Alors de fait, une grande partie de la rive gauche a appartenu à un propriétaire unique, les Hospices Civils de Lyon. Il faut savoir qu'à Lyon, c'est un organisme qui est très riche, très influent. Le domaine est très très important. Et l'objectif consiste ici à croiser des questions de sécurité avec des mécanismes de formation d'un territoire urbain. C'est vraiment la volonté d'Anne-Sophie Clémenceau. Il faut signaler aussi qu'on a des sources très riches, la disponibilité évidemment des archives, ça constitue toujours aussi le sujet, ça aide à choisir un sujet. On a en effet des Hospices Civils de Lyon qui ont conservé et décrit jour après jour la manière dont ils ont géré leur domaine et toutes les transactions qui sont en référence avec la constitution du domaine. C'est très précis et c'est très bien conservé. Alors cette étude, elle s'organise autour de quatre grands thèmes caractéristiques des luttes que les Hospices Civils ont voulu mener contre l'insécurité. On a un premier thème qui tourne autour des catastrophes naturelles. Alors bien évidemment, rive gauche du Rhône, on va parler des inondations. Deuxième grand thème, c'est évidemment les activités illicites, et on pense à la prostitution. Troisième thème, les activités, enfin tout ce qui est indirecte aux activités illicites, parce qu'évidemment les activités illicites sont générées par d'autres choses. Et puis il y a un quatrième thème qui est très intéressant pour nous aujourd'hui, en tout cas dans ce XXIe siècle, c'est ce qu'on appelle la dissuasion spatiale. Alors justement, parlons du premier thème, la lutte contre les catastrophes naturelles, et à savoir l'inondation. Je vous ai dit précédemment qu'on a vu une très grande inondation du Rhône en 1856. Et d'une façon générale, la lutte contre les inondations de la rive gauche du Rhône sont assez récurrentes au XIXe siècle. Les hospices civils vont donc essayer de juguler ces inondations avec différents types d'actions. Alors évidemment, on va essayer de gagner du terrain sur le Rhône. On va remblayer les sols et construire d'autres voies. On va aussi, et ça c'est quelque chose qui a quand même fait partie du bon sens, interdire toutes les constructions en pisé de terre, ce qui était quand même problématique, parce que c'est évidemment des constructions qui sont peu onéreuses. Construire en pierre, c'est forcément plus cher. Et puis, le dernier type d'action des hospices civils de Lyon, ça va être l'endiguement des quais du Rhône. Essayer d'endiguer le lit du Rhône. Cette lutte contre les catastrophes naturelles, qu'est l'inondation, enfin, l'exemple d'inondation, va révéler évidemment l'ampleur des dispositifs mis en place par les hommes. Toutefois, il est assez important de noter que le but n'est pas seulement de protéger les hommes et les biens, mais aussi de transformer une zone qui est relativement marécageuse, peu exploitable et peu accueillante. Et les hospices civils de Lyon vont réussir à faire de cette zone marécageuse et peu exploitable au départ un secteur qui va devenir un secteur très important, un secteur d'expansion de l'agglomération lyonnaise et de plus un secteur qui va prendre de la valeur. Donc là, il y a vraiment un enjeu assez considérable. Deuxième type d'action, les activités dites illicites. Et là, bien évidemment, il s'agit de la prostitution. Les hospices civils vont très vite identifier, à peu près entre 1850 et 1875, identifier et nommer la question de la prostitution. Mais attention, pas seulement pour ce que la prostitution pourra avoir de répréhensible ou de peu moral. La question, c'est qu'évidemment, si on a la prostitution, ça va faire baisser le prix du mètre carré. Donc les hospices civils vont avoir à cœur de faire disparaître cette prostitution pour ne pas perdre, en tout cas, pour que les immeubles ne perdent pas de leur valeur. Donc on a vraiment, par rapport à ça, une perception qui est quand même assez particulière. Alors, il faut savoir, et ça permet de mieux comprendre aussi les choses, que la commune de la Guillotière a été rattachée à la ville de Lyon en 1852, donc pratiquement à la jonction de la première moitié et de la seconde moitié du XIXe siècle, et que du coup c'est un territoire qui est intégré dans une logique de gestion urbaine et qui va donc être, qui va être géré maintenant par ce grand préfet Weiss, qui est un petit peu l'équivalent d'Haussmann à Paris. Alors à cette époque, les hospices vont effectuer de très nombreuses ventes de terrain. Et c'est une époque très prospère pour les hospices civils de Lyon. Et dans ce contexte, comme ils le font d'ailleurs tout au long de leur histoire, ils vont mener une réflexion très approfondie sur les paramètres qui influencent la valeur de leur terrain. Les hospices civils de Lyon ont vraiment à cœur de faire grimper la valeur de leur terrain. Donc ils ont bien étudié la question. Et à l'échelle de la rive gauche, donc de cette rive gauche du Rhône, ils ont noté qu'il y avait trois éléments qui créaient de la plus-value. La gratuité des ponts, la construction des quais et la création du parc de la Tête d'Or, qui est un immense parc qui a été donc travaillé par Inès Mediani, entre autres, mais aussi par d'autres géographes. Et les hospices civils de Lyon font donc évidemment le constat qu'il y a trois éléments donc importants, dont la création du parc de la Tête d'Or. Et puis, les hospices civils de Lyon ont tellement à cœur de faire flamber, entre guillemets, on dirait aujourd'hui, le prix du mètre carré de leur espace, qu'ils vont aussi mener une étude un peu plus approfondie. Et ils vont donc définir trois éléments aussi importants qui vont avoir un impact divers sur la valeur des terrains, mais qui va jouer, c'est la forme des parcelles, les constructions qui s'élèvent sur les parcelle, pardon. Évidemment, plus la construction est en pierre, plus elle est riche, plus elle est esthétique, entre guillemets, plus la parcelle aura de la valeur. Et puis, bien évidemment, la dernière, le dernier impact direct sur la valeur des terrains, c'est l'occupation sociale des immeubles. À l'inverse, les hospices civils de Lyon vont identifier ce qu'ils ont appelé des repoussoirs à la plus-value des terrains, c'est-à-dire des éléments qui font perdre de la valeur au terrain. Et c'est là que la prostitution va rentrer dans le viseur des hospices civils de Lyon. Et d'une manière générale, la prostitution, mais tout ce qui est considéré comme la mauvaise moralité, entre guillemets, puisque je cite les hospices civils de Lyon. La prostitution et la mauvaise moralité jouant comme une cause essentielle de cette moins-value pour les terrains. Après 1875, donc dans un premier temps, 1850-1875, les HCL observent, regardent comment ils vont pouvoir juguler cette prostitution. Et puis après 1875, les hospices civils de Lyon vont donc mener une politique très intransigeante sur la question de la prostitution. Et l'évolution générale de la rive gauche du Rhône n'est pas étrangère d'ailleurs à ce changement d'attitude, parce que ce territoire connaît un très fort développement, parce que tout le reste de Lyon stagne entre guillemets en matière de population, c'est déjà très construit, donc c'est évident qu'il faut développer cette rive gauche du Rhône. Et comme dans la période précédente, la forte augmentation de la population sur la rive gauche est à noter. Et c'est une zone qui va donc voir arriver une moyenne bourgeoisie. Alors c'est vrai que le fait d'avoir régénéré le centre, donc la presqu'île de Lyon, ça a un petit peu jugulé le fait que les populations bourgeoises partent sur la rive gauche, mais on a finalement une moyenne bourgeoisie qui s'y installe. Et de plus, la nouvelle préfecture, donc qui s'installe sur la rive gauche, va forcément amener avec elle des immeubles de standing et une moyenne bourgeoisie qui fait évidemment ce transfert vers la préfecture. Menez un petit peu un ordre, enfin une date, la préfecture est transférée en 1890. La construction, c'est fin 1890. Donc les hospices civils de Lyon se disent qu'il y a un contexte qui est très favorable pour leur terrain, qui ne cesse de prendre de la valeur. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'ils vont décider de vendre énormément de parcelles. Alors, le succès des HCL, ça va être d'avoir conçu, pensé et conçu, des implantations d'îlots. Alors, on appelle ça des îlots à cour commune. Donc, ce sont des ensembles d'immeubles bourgeois qui ménagent en leur centre un vaste jardin. Et ça va donc attirer une moyenne bourgeoisie, assez fortunée, mais plutôt une moyenne bourgeoisie dans un premier temps. Et puis les HCL ont décidé que si les constructions sont en mauvais état sur leurs parcelles, elles vont exclure les populations. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas renouveler un bail à quelqu'un qui aura une construction qui n'est pas d'un assez bon standing. Alors évidemment, c'est assez étonnant parce que vous pouvez avoir des immeubles qui sont construits sur des parcelles qui n'appartiennent pas aux propriétaires des immeubles. C'est une particularité, enfin en tout cas à Lyon, c'est assez courant. Donc quand les HCL considèrent que l'immeuble n'est pas de bonne facture, ou en tout cas qui ne correspond pas au standard qui est maintenant le standard de la rive gauche, il va exclure en ne renouvelant pas le bail. Donc c'est assez carré et assez pratique pour eux. On parle donc d'une attitude assez intransigeante des hospices civils de Lyon par rapport à une classe sociale qui est quand même défavorisée. Et Anne-Sophie Clémenceau a voulu souligner quand même l'aspect assez surprenant de cette mesure, sachant que la vocation première des hospices civils de Lyon, c'était plutôt la charité et le soutien aux pauvres. Mais les HCL, qui ont beaucoup consigné les discussions quand ils se réunissaient, expliquent que ça avec beaucoup de facilité. Les HCL partent du principe qu'il faut faire fructifier au mieux leur domaine, qu'ils appellent aussi, je cite, « le domaine des pauvres », de manière à pouvoir financer les hôpitaux. Donc pour eux, il n'y a pas de contradiction à faire fructifier ces immeubles et ces parcelles. Et donc, à mettre à la porte, entre guillemets, des populations qui... On pourra attendre, en tout cas, qu'il les protégerait. Donc en somme, leur comportement est bien conforme, nous dit Anne-Sophie Clémenceau, à celui d'un grand propriétaire terrien, dont l'objectif premier est la rentabilité, et ceci indépendamment du projet social de l'organisme, en tout cas projet de départ. C'est donc une approche qui est liée à la recherche de rentabilité, et c'est dans cette approche-là que la question de la prostitution émerge, et ce ne sont ni des aspects sanitaires, ni un aspect moral qui l'a emporté, en tout cas, dans cette opération. Il y a une troisième lutte qui est assez intéressante, c'est ce que Anne-Sophie Clémenceau appelle la lutte indirecte contre les activités illicites, c'est tout ce qui concerne l'implantation militaire, les édifices religieux et les bâtiments publics. Parce que dans cette rive gauche du Rhône, tout était à construire, tout était à faire, et il va donc y avoir évidemment des implantations militaires, religieuses et des bâtiments publics. Alors pour ce qui concerne les implantations militaires, là les HCL ont peu de marge de manœuvre, c'est le gouvernement français qui va engager la lutte directe contre différents types d'insécurité, et le gouvernement impose, entre guillemets, ses choix aux hospices. Dans le cas des édifices religieux, et à leur suite les bâtiments publics, les hospices, au contraire, ont les mains libres. Ils vont donc mettre en place une politique pour favoriser l'implantation de ces bâtiments. L'un des buts étant clairement de lutter contre les activités illicites, prostitution bien entendu, mais de façon détournée avec des bâtiments religieux et des bâtiments publics. Les édifices religieux sont construits très rapidement, dans des proportions assez importantes, mais ils amorcent un mécanisme très nouveau, puisqu'ils sont les premiers édifices publics construits sur cette zone. Ces constructions sont fortement encouragées par les hospices, parce qu'on est dans la même, on va dire, pensée. Tout bâtiment public créé va donc évidemment générer une plus-value pour le secteur, en tout cas pour les rues environnantes et pour les parcelles qui sont dans le secteur. Donc l'implantation d'un bâtiment religieux ou d'un édifice public va donner évidemment de la valeur aux immeubles des HCL. Et les hospices civils considèrent les choses évidemment là encore de cette manière. Donc autant les bâtiments publics que les édifices religieux présentent donc un avantage, mais ils vont aussi en cumuler un second pour les HCL. Ils contribuent, nous dit-on, par leur caractère religieux à, je cite, « élever la valeur morale des populations ». Donc tout le monde, finalement, y trouve son compte. Et puis la dernière chose assez importante et qui est assez parlant pour nous au XXIe siècle, c'est la dissuasion spatiale, puisqu'évidemment, si les HCL veulent conserver la valeur à leurs immeubles et à leurs parcelles, il faut évidemment préserver la sécurité des populations. Et là, ça nous amène à changer d'échelle d'observation, puisqu'on va privilégier cette fois-ci l'échelle de l'îlot et de l'immeuble, avec une dissuasion spatiale qui consiste à créer un barrage physique pour interdire aux passants, alors le plus souvent simplement le dissuader, hein, discrètement, d'entrer et de circuler dans les lieux. On observe donc une augmentation progressive de la barrière des bâtiments, qui viennent de plus en plus haut pour le pourtour de l'îlot, donc on ferme vraiment le centre de l'îlot. Ceci va générer à terme une protection physique complète du cœur de l'îlot, qui dissuade donc de pénétrer dans l'espace, et aussi un cœur d'îlot qui va devenir un lieu réservé, protégé, où les étrangers n'ont pas leur place. Et c'est très clairement signifié. Quand l'ensemble du pourtour est construit, il forme une sorte de rempart, et le seul moyen de pénétrer dans la cour, c'est alors l'entrée de l'immeuble. Alors, cette partie de l'immeuble qui va donc de la porte qui donne sur la rue au début de l'escalier qui va desservir les paliers, à Lyon, ça a un nom, en tout cas c'est une désignation spécifique, on parle à Lyon d'allée. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ici. L'allée constitue le point fort de la stratégie de sécurité, puisque le rôle de la conciergerie est assez déterminant. Et les étrangers à l'immeuble sont filtrés et les personnages, en tout cas les personnes qui sont indésirables, sont repoussées plus facilement quand on a un seul point, évidemment, d'accès. Parmi les personnes indésirables, à l'époque, les archives nous apprennent qu'on précise seulement les mendiants et les colporteurs. Ce ne sont pas, on parle ni de de malfrats, de cambrioleurs. On est vraiment sur des colporteurs et des mendiants, en tout cas des gens qui importuneraient les populations nouvellement installées sur cette rive gauche de du Rhône. La porte d'allée, en plus, est fermée en début de soirée. Et là, de ce point de vue-là, elle remplit vraiment cet office. Donc là, vous voyez qu'on est loin des baraques que je vous ai montrées précédemment. Et vous comprenez aisément donc que là, il y a une plus-value qui est assez astronomique pour les HCL. Donc Anne-Sophie Clémenceau conclut son travail ainsi. Elle dit que le thème de la sécurité-sûreté est le plus souvent traité à partir de l'action des institutions, ou en tout cas du ressenti des habitants. Et ici, elle a pu développer un autre point de vue, celui d'un propriétaire foncier lotisseur, ce qui permet de saisir l'étroite relation qui existe entre la sécurité et la fabrique urbaine. Et ça permet aussi donc d'alimenter notre réflexion sur la ville actuelle. On peut affirmer que la lutte contre l'insécurité est au cœur du projet de politique urbaine des Hospices Civils de Lyon, car c'est elle, dans ce contexte historique, qui produit avant tout de la plus-value foncière. Donc la sécurité va produire de la plus-value foncière. Elle termine son propos en disant qu'il y a une autre conclusion qui s'impose sur ce travail, c'est que lorsqu'on aborde les questions de sécurité dans la production de la ville, c'est l'importance de l'implicite et du non-dit, et de l'action détournée qui parfois remonte un peu à la surface. Alors voilà ce qu'on pouvait dire pour l'apport d'études historiques dans la question d'urbanisme et de sécurité. Je voulais juste dire que les géographes, donc, eux, ont travaillé sur plutôt les espaces verts, donc l'aménagement des parcs et notamment de ce fameux parc de la Tête d'Or que vous avez pu voir sur le plan. Et puis un aménagement qui est beaucoup plus récent qui est les berges du Rhône, puisque Lyon a décidé depuis une dizaine d'années de redonner l'accès aux Lyonnais, enfin de redonner l'accès des berges, en tout cas d'aménager ces berges et de redonner l'accès aux Lyonnais. Donc eux, ils ont fait un travail qui est beaucoup plus dispersé dans l'agglomération lyonnaise. Plus un travail sur la banlieue Rieux-la-Pape, qui était un travail mené par Christine Chemin. Donc voilà, moi pour l'aspect en tout cas historique, ce que l'on peut dire dans les questions d'urbanisme et de sécurité, sur cette question-là. Merci.